Phil PM. Politique.
Qu'est-ce que vous pensez de la position de M. Legault sur l'immigration?
J'ai écouté de ses explications et
Vous n'avez pas répondu sur le test des valeurs.
Je pense que c'est très important d'avoir un système qui concentre sur l'intégration.
Mais êtes-vous d'accord avec le test des valeurs, M. Scheer?
Je respecte le champ de compétences de la province du Québec. C'est pas quelque chose que nous va concentrer nous-mêmes comme un parti fédéral.
Voici Louis Lacroix et Carl Bélanger.
Alors, c'était le scrum auquel a été soumis ce matin le chef conservateur Andrew Scheer qui rencontrait donc François Legault, premier ministre du Québec. Donc, Andrew Scheer qui est à Québec et au sortir, il s'est fait questionner notamment par Louis Lacroix, chef du bureau politique pour Cogeco Nouvelles. On entendait sa voix. Bonjour, Louis.
Bien le bonjour.
Et Carl Bélanger est là, bien entendu, pour nous parler de la scène fédérale, consultant stratège. Bonjour, Carl.
Bonjour.
Alors, Louis, écoute, c'était un petit peu difficile pour M. Scheer. On a fini par comprendre que sur les tests des valeurs, il respectait la compétence des provinces.
Mais qu'il n'était pas nécessairement d'accord avec ça.
Ouais.
Moi, c'est ce que je comprends, en tout cas. Écoute, mais c'est difficile à dire. Très honnêtement, j'ai été obligé d'écouter la portion anglaise là, de la mêlée de presse pour avoir une idée à peu près là, de ce qu'il voulait dire, parce que c'est pénible là, pour M. Scheer en français. Là. Et tu sais, je pense que s'il veut devenir premier ministre du Canada, il va falloir que ça s'améliore un petit peu plus que ça, là, parce que c'est pas assez. Mais en tout cas, toujours est-il que il y avait plusieurs sujets qui étaient à l'ordre du jour avec M. Legault aujourd'hui, entre autres, bien sûr, la question de l'immigration. Puis, ce qu'il dit, quand on lui a posé la question sur la baisse des seuils d'immigration, parce qu'on sait que François Legault veut faire passer les seuils d'immigration de 50 000 à 40 000, mais là, M. Scheer a pas trop répondu. Il dit, on est nous-mêmes en train d'établir notre plateforme en immigration, donc il n'a pas voulu se prononcer. Il a surtout dit qu'il avait écouté M. Legault sur ce que M. Legault avait à dire, notamment sur les signes religieux, sur le fameux test des valeurs, etc. Mais il n'y a pas... En tout cas, moi, j'ai pas eu l'impression qu'il avait donné, son aval ou son assentiment aux demandes de François Legault. Je ne sais pas si vous avez la même lecture que moi, mais j'ai pas l'impression là qu'il est d'accord avec tout ce qu'avance François Legault.
Vas-y donc, Carl, oui.
C'est certain qu'il marche sur des œufs, hein, parce que d'un côté, je pense que Andrew Scheer voit bien dans les électeurs caquistes un beau bassin potentiel d'électeurs conservateurs. Il y a des vases communicants. De l'autre côté, sur la question de l'immigration, c'est pas clair que le Québec et le reste du Canada est au même diapason. Enfin, ouais. Je dirais que c'est même le contraire. Alors, Andrew Scheer marche sur des œufs, tente de se trouver une position mitoyenne. Il frappe très fort à Ottawa sur toute la question des immigrants illégaux ou des réfugiés illégaux.
Ouais, ouais.
Mais sur la question de l'immigration en général, on n'est pas dans la réduction du côté du Parti conservateur, au contraire.
D'accord.
Non, exactement. Puis c'est un peu ce qui transparaissait aujourd'hui, tu sais, dans ce scrum-là. Entre autres, tu sais, il y a d'autres choses aussi. C'était assez cocasse qui soulève. Je sais que c'est un de tes points, Carl, le fait qu'aujourd'hui on en profite pour annoncer des contrats du côté de Davie là pour donner du travail là-bas, alors qu'Andrew Scheer est dans la région de Québec.
Ben, il s'en va même au chantier après-midi.
Ben oui, exactement. Alors, tu sais, est-ce que c'est un hasard qu'on choisisse spécifiquement cette journée? Là, alors que c'était déjà annoncé depuis un certain temps.
Penserait pas. Alors, passe sur la palette de Carl, de Louis à Carl. Vas-y donc, Carl, avec la Davie.
Belle passe, j'aime bien ça.
Très belle passe, vas-y.
Mais oui, la Davie, gouvernement du Canada, donc on disait annoncer l'octroi d'un gros contrat aux trois grands chantiers maritimes du Canada, donc la Davie à Québec, Irving en Nouvelle-Écosse, C-SPAN en Colombie-Britannique. C'est un préavis de contrat, là, mais ce sont les trois chantiers qui se qualifient parce que les autres n'ont pas la capacité de pouvoir le faire. C'est un total de 7 milliards de dollars pour l'entretien des 12 frégates de classe Halifax. L'idée, c'est qu'on veut les garder à flot le temps qu'on remplace ces bateaux-là. Mm. On parle d'un échéancier d'environ 15 ans, là, mais on verra, parce qu'en termes d'approvisionnement militaire, le Canada, c'est pas un modèle à suivre. Quand même, on dit que c'est le plus gros contrat de l'histoire de la Davie, et les libéraux chuchotent, là, nous, on livre la marchandise pour Davie, nous, on est là, et les conservateurs n'étaient pas là, et on a posé la question à Andrew Scheer ce matin, on peut l'écouter.
C'est faux. C'est intéressant que le premier ministre a choisi aujourd'hui pour faire l'annonce quand après que je visite Québec aujourd'hui. C'est clair que c'est une annonce pour 2021. Il y a un besoin aujourd'hui. Davie a le besoin aujourd'hui. Il a la capacité de construire l'Obélix aujourd'hui. Le gouvernement fédéral ne fait aucune chose.
Mais ouais. C'est vrai jusqu'à un certain point que les conservateurs n'étaient pas là. Ils avaient donné les contrats à C-SPAN puis au chantier Irving. Mais il faut dire que Davie est en faillite à l'époque aussi. Là,
oui, effectivement, mais il était quand même en voie de s'en sortir. Il aurait pu avoir des morceaux de contrat. Mais il faut dire que, bon, on parle du plus gros contrat de l'histoire de la Davie, là. C'est un contrat de 7 milliards divisé par 3. Il y a 7 frégates qui sont encore de Britannique. Donc, la Davie ne touchera pas à ceux-là. Il y en a, donc ils vont se séparer les autres.
Il va en avoir 5 en Colombie, puis il va en avoir 4 à Halifax, puis il va en avoir 3 à Davie.
3 à la Davie. Bon, c'est ce qu'on dit. Maintenant, le contrat, le gros contrat, le gros programme de construction navale pour le remplacement de ces frégates-là, c'est 60 milliards. Et le maître d'œuvre, c'est Irving. On a annoncé là, que le constructeur principal serait BAE, la firme britannique. Et la Davie touche pas à grand-chose de ça, au contraire.
Non, c'est ça. Il y a eu au-dessus de 60 milliards qui a été donné à Irving dans l'est du pays, Nouvelle-Écosse surtout. C'est 12 milliards à Vancouver.
Pour les gardes-côtes, oui.
Pour les brise-glaces, notamment.
Voilà.
Et la Davie va avoir peut-être autour de 2 milliards là, pour réparer, mettre à niveau les trois vieilles frégates. On s'entend qu'on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur, là.
Non. Ça va créer des centaines d'emplois. C'est une bonne nouvelle.
Ah, ben oui.
Mais c'est un prix de consolation.
Ouais. Un petit prix. Revenons juste avant d'aller à la pause. Je veux revenir à la visite de Scheer, Louis, parce que il a dit qu'il était d'accord, lui, avec un rapport d'impôt unique, donc les Québécois qui remplissent deux rapports d'impôt. Il a réitéré que lui serait d'accord pour qu'il y ait juste un rapport d'impôt.
Bien, je pense, c'est plus François Legault qui lui a mis les mots dans la bouche, là, en disant « Je suis bien heureux que vous soyez d'accord avec nous sur le rapport d'impôt unique. » Puis là, M. Scheer a répondu « Oui, ça va simplifier la vie des gens. » Alors, on comprend là, qu'il est d'accord avec ça. Mais on n'a pas de détails. On ne sait pas de quelle façon ça se ferait. Mm. On sait que François Legault, lui, s'il y a un rapport unique, un rapport d'impôt unique, il faudrait qu'il soit fait par Québec, tu sais, parce que c'est des emplois qui sont en jeu. Puis c'est surtout l'autonomie fiscale du Québec qui est aussi en jeu là-dedans. Mais il semble dire, M. Scheer, qu'il est d'accord. Par contre, est-ce qu'il est d'accord sur les mêmes terme, si on veut, que François Legault. Mais là, tout à l'heure, on n'a pas eu l'occasion de lui poser cette question-là parce que, évidemment, c'est un chef conservateur. Les chefs conservateurs, c'est trop difficile d'avoir de poser des questions, des scrums prolongés avec un chef conservateur.
Ah oui, c'est vrai.
ça fait quelques mois que les conservateurs proposent cette déclaration de revenus unique. Le NPD a adopté cette politique-là lors de leur congrès au printemps dernier. Alors là, il y a deux partis fédéraux qui semblent aller dans ce sens-là. Mais évidemment, le gouvernement, c'est le Parti libéral, puis eux autres, ils ne veulent rien savoir.
Ouais.
OK. On va s'arrêter parce qu'au retour, vous allez tous les deux nous parler de ces dépenses des anciens gouverneurs généraux. On a vu Mme Clarkson là, qui nous coûte au-dessus de 100 000 par année pour ses dépenses personnelles. Il paraît qu'elle y a droit, mais maintenant, il me semble qu'on peut réviser la règle. Tu vas nous en parler, Carl. Et Louis a comme un petit twist intéressant pour faire le lien dans un instant. De retour avec Louis Lacroix, chef du bureau politique pour Cogeco Nouvelles, et Carl Bélanger, qui est notre observateur sur la scène fédérale. Parle-nous des réactions donc à cette nouvelle sur les dépenses que je qualifierais d'assez extravagantes de Mme Clarkson.
Oui, ben disons que ça semble être hors norme, mais et ce qui est intéressant, c'est dans le cas d'Adrienne Clarkson, la raison pour laquelle on le sait, c'est parce qu'elle a dépassé le 100 000 $ par année. À cause de ça, ça doit apparaître dans les comptes publics comme une ligne unique. Là. Donc, on c'est comme ça qu'on le sait. Mais les autres gouverneurs généraux, les autres ex, sont en bas de ce chiffre-là. Donc, on ne sait pas exactement combien ils dépensent. On n'a pas beaucoup de détails sur comment cet argent est dépensé. Le Widowhall dit, on prend les reçus, tout est optimisé, mais on n'a pas de détails, on n'a pas de capacité de savoir.
Mais comment on n'a pas de capacité de savoir? C'est notre argent. C'est notre argent, Carl.
Justement. Mais pour l'instant, là, Ridehall ne dévoile pas les détails.
Ben oui, et, mais...
et, et,
qu'on change les règles, qu'on s'organise pour les avoir. Mais pourquoi? Voilà. Parce que c'est donc, la reine, Esto, on peut pas y parler, on peut pas savoir comment elle dépense notre argent, donc, voyons donc.
Exactement. Et donc, là, l'opposition, hier, on pouvait s'attendre à ce qu'ils réagissent. Là, d'ailleurs, j'ai un extrait sonore du néo-démocrate Alexandre Boulris qui s'étonne de la situation.
Quand vous êtes au travail, vous pouvez pas charger des frais aux contribuables. C'est complètement insensé. Imaginez un petit peu si demain, je suis plus député puis je continue à envoyer mes factures de bureau de député à la Chambre des communes. J'espère qu'on me dirait non. Je comprends pas comment ça fait que le gouvernement libéral met pas fin à ça tout de suite.
Ben, c'est bonne question.
Hein? Ben oui, mais voici, c'est une bonne question qui a mentionné aux journalistes. Et Trudeau, en marge de la réunion du caucus, a dit du bout des lèvres qu'il allait regarder ça. Mais hier, en période de questions, pas une seule question sur ce sujet-là.
Non.
Ils n'ont pas posé une question au gouvernement sur Edwin Clarkson, ses dépenses, les ex-gouverneurs généraux, qu'est-ce qu'on va faire? Pas une question.
Ben, nous autres, on a eu une situation, ben, on se souvient de Lise Thibault, là, qui était lieutenant-gouverneur puis qui dépensait sans compter.
Oui.
Mais on a eu une situation semblable avec les ex-premiers ministres pendant longtemps. Là. Écoute, moi, j'ai fait une série d'articles là-dessus où je parlais des dépenses de Pauline Marois qui avait dépensé pendant son après-mandat, si tu veux, là, les trois années après son mandat. Mm-hmm. Elle avait dépensé près de 500 000 $ en différents frais. Puis ça, il fallait compter là-dedans aussi l'allocation de bureaux dans un immeuble historique là, de la rue Saint-Jacques dans le Vieux-Montréal, tu sais, pour continuer son après-mandat, puis de l'embauche de personnel, puis des contrats, les contrats qu'elle donnait aussi, entre autres, à Mme Payette, là, qui avait fait un rapport sur les radios de Québec à l'époque.
Oui.
Alors là, on a mis un terme à ça parce qu'il y a eu des exagérations au fil des ans et puis on s'était rendu compte que ça n'avait plus de bon sens là, de payer les après-mandats pendant trois ans avec la garde rapprochée.
Existait depuis quand, ça, à Québec? Parce que tu nous parles de Mme Marois. J'imagine que M. Charest avait eu droit aussi.
M. Charest, M. Landry, ça existait depuis 1996. Ah. C'est cette espèce de...
Donc, Lucien Bouchard, il a eu accès aussi?
Oui, mais il y en a qui en ont profité, puis il y en a d'autres qui ont décidé de ne pas en profiter.
Oui, c'est ça, justement. C'était du cas par cas. Il n'y avait pas de règle établie. Chaque premier ministre sortant négocier avec le nouveau gouvernement pour savoir combien d'argent il pouvait avoir.
Ouais. Mais là, c'est fini, par exemple.
Ben, c'est ça, là.
Parce que là, il y a une loi, le projet de loi 140, qui a été adopté à la toute fin de la législature, c'est en juin, et qui fait en sorte que dorénavant, c'est 200 000 piastres qu'ils peuvent dépenser pour... Parce que on comprend que à la suite d'un mandat de premier ministre, il y a peut-être des dossiers que tu veux fermer, des choses que tu veux tu veux terminer, des projets à faire, etc.
Tu as surtout beaucoup de courriers, je pense.
Oui, exactement. Oui. Donc, ils vont avoir un local qu'ils ne pourront plus louer comme ils le faisaient auparavant. Là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'en allaient trouver un local. Ben nous autres, on trouve ça beau, on s'installe là, puis après ça, tu envoies la facture au gouvernement. Alors là, c'est la SQI, la Société québécoise des infrastructures, qui va fournir un local qui leur appartient. Et par la suite, les dépenses, c'est une personne qui travaille pour toi. Tu as le droit d'avoir une secrétaire qui va travailler pour toi, va s'occuper de tes affaires. 200 000 piastres et la protection de la Sûreté du Québec ne sera plus étendue comme elle l'était auparavant. Là, c'était 2 ans, voire 3 ans de protection avec le chauffeur puis les gardes du corps. Là, ça va être 1 an. Et s'il devait y avoir une menace qui est évaluée, par exemple, de façon excessive par la Sûreté du Québec, mais là, on pourrait prolonger d'un an la protection du premier ministre avec un garde du corps.
Mais le 200 000, là, Louise, là, ça inclut tout?
Ça inclut tout.
Et donc, si tu choisis de dépenser ton 200 dans ta première année, après ça, t'en as plus. Tu peux l'étaler dans le temps, mais ça doit pas dépasser 200?
C'est un an.
C'est un an?
Oui, l'allocation t'est offerte. Tu peux dépenser jusqu'à 200 000 $ mais sur une période d'un an.
Okay.
Et tu ne peux plus donner de contrat de gré à gré comme l'avait fait, par exemple, Pauline Marois avec Mme Payette sur sa fameuse...
Alors, Carl, d'abord, je suis très étonné, Carl, que les partis d'opposition n'aient pas soulevé cette affaire-là. Comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas soulevé? C'est-tu parce que dans le reste du Canada, il y a encore suffisamment d'appui à la monarchie pour que les partis d'opposition... soit réfractaires à se lancer là-dedans parce qu'ils ont peur d'offusquer les pros reines puis les pros princes puis les pros princesses puis les pros c'est ça là.
Ben écoute, je pense pas que c'est pour cette raison-là là, parce qu'évidemment le sentiment pro-monarchiste, on le voit lorsqu'il y a des tournées royales là, c'est plus comme c'était il y a même 20 ans là, tu sais
c'est Carl, on est ailleurs, d'abord. Écoute, moi là, j'en ai fait des périodes des questions là, une pain autre là. Facile à expliquer. Ça fait damner le monde. c'est une institution qui n'a pas son utilité pour ben, pour pas mal de gens. Je veux dire, c'est une question facile, ça, c'est une balle à circuit.
Ça devrait.
Une balle
à circuit. Ça devrait. Moi, j'aurais poussé pour ça, c'est certain, j'aurais poussé pour ça. Mais bon, les conservateurs, sans avoir leur plan de match, sont allés beaucoup sur la fameuse taxe sur le carbone. Et le NPD posait des questions, notamment sur le fait qu'ils n'ont pas déclenché des élections partielles dans tous les comtés. Le cas de la gouverneure générale,
le bloc,
ils sont dans les rideaux. Alors, ils ont une question, ils ne sont pas allés là-dessus non plus.
Je trouve ça
m'a étonné. La première chose à faire, c'est de dire au gouverneur général, quand il rentre en poste, là, ou à la gouverneure générale, quand il rentre en poste, que c'est pas vrai qu'ils sont les représentants de la reine, là. C'est juste un honorifique comme travail, là. Ils sont pas véritablement de la royauté. Il faudrait leur dire, parce qu'il y en a qui le pensent, tu
sais. Ouais,
votre
c'est
excellence,
ça.
Hein. On les appelle votre excellence.
C'est ça. Bon, ils se mettent à se croire, tu sais.
Ouais, ouais. T'as bien raison, Louis. Faudrait les asseoir et lui parler un petit peu. Sauf qu'ils sont pas très accessibles. Louis Lacroix, chef du bureau politique pour Cogeco Nouvelles. Merci, Louis.
Salut.
Carl Bélanger, consultant stratège. Merci, Carl.
Salut.
Salut, on s'arrête. Au retour, la question. Si on commence à prendre du cannabis, est-ce qu'on augmente les chances de passer par la suite à la cocaïne ou à l'héroïne? Après la pause.